Bienvenue sur The Thinking Gallery, le podcast qui décortique la pensée des leaders d'aujourd'hui afin d'anticiper le monde de demain. Je suis Paul Terrasson du Vernon et je suis accompagné de mon fidèle acolyte Arthur Derberian. Vous êtes prêts? Abonnez-vous et on vous propose de plonger dès à présent dans The Thinking Gallery.
Alors, il y a deux définitions, une définition très stricte, comme je te disais, qui est une définition un peu cyberpunk, un peu extrémiste, et il y a la réalité. C'est pas toujours aligné. La définition stricte, c'est donc une Decentralized and Autonomous Organization, DAO. Donc, traduction, une organisation qui est décentralisée et autonome. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va être un protocole qui va s'organiser autour de la technologie de la blockchain de manière à se passer d'intermédiaire, donc d'être autonome, de manière à réaliser un business ou résoudre un problème sur le web. L'objectif étant, de se passer d'intermédiaires humains de manière à créer des écosystèmes de confiance sur Internet.
Et ça, c'est la définition plutôt stricte ou
Plutôt stricte, j'aurais tendance à dire, parce que quand on dit ça, on sous-entend la disparition de toute intervention humaine dans ce type de système. La réalité étant tout autre. Dans énormément de protocoles, énormément de DAO, malgré tout, on va retrouver une core team, des développeurs, des contributeurs plus ou moins engagés, et qui du coup ont un rôle quotidien. Alors, dans les DAO, il y a un élément extrêmement important, c'est que de manière à s'organiser ensemble, de manière à trouver un nouveau système de gouvernance sur Internet, il faut pouvoir mettre en place du coup des systèmes de prise de décision. Je pense qu'on va aborder le sujet. Et donc pour faire ça, vous allez utiliser un médium, c'est souvent un token, donc une crypto-monnaie.
On va décrypter tout ça.
Ouais,
par
ça
la
fait
suite.
Peut-être beaucoup.
Non, mais vas-y.
N'hésitez pas à
prendre des notes à côté, cherchez sur Google.
Du coup, non, ces systèmes, ces protocoles vont s'organiser autour d'une crypto-monnaie, d'un token, qui va permettre, par exemple, la prise de décision ou la rémunération des acteurs et des contributeurs de ces systèmes.
Ok. Est-ce que tu aurais un exemple de DAO qui nous permettrait un peu de nous représenter ce que c'est aujourd'hui?
Bien sûr. Alors, plutôt que vous représenter, on va donner un exemple qui existe dans la vraie vie. Ouais. Et si on transformait cet exemple en DAO, qu'est-ce que ça deviendrait? C'est un exemple tout simple qui est assez connu. Si on prend un distributeur automatique, une vending machine, aujourd'hui, pour pouvoir marcher, vous allez avoir besoin de surveiller les stocks. Donc, il y a un être humain qui va venir, qui va recharger la machine. Il y a un être humain qui va devoir venir récupérer la caisse, le change, pour l'amener à la banque. Il y a quelqu'un qui va nettoyer la machine une fois de temps en temps, etc. Ça, c'est comment est-ce que les business opèrent dans la vraie vie ou dans le Web2. Si on voulait transformer cette vending machine en une DAO, il faudrait réussir à automatiser toutes ces opérations.
Okay.
C'est-à-dire qu'il faudrait que la machine soit capable de vérifier ses stocks automatiquement, recommander ce qui a été déjà consommé par les utilisateurs de cette machine, directement envoyer l'argent à la banque en acceptant par exemple que des paiements par carte bleue, je dis une bêtise, avoir un drone qui va pouvoir venir recharger la machine, tu vois, et ramener ce qu'il faut à l'intérieur, tout ça sans l'intervention d'un être humain 100% autonome. Elle va être capable de payer même sa facture d'électricité, une assurance même éventuellement au cas où il y a quelqu'un qui aurait cassé cette machine, capable de se réparer toute seule, etc.
Et ça vient d'où un peu cette idée de faire ça? Et à quel moment ça a émergé, les DAO? Tu sais un peu ou pas?
Je pense que c'est difficile à dire, mais moi, j'ai tendance à relier ça à l'évolution du web. Il y a eu trois grandes étapes. D'abord, la première version d'Internet, dans laquelle des entreprises créaient du contenu et les entreprises gagnaient de l'argent pour ce contenu. C'est la première version d'Internet. Seconde vague, ça a commencé à être les gens, comme vous et moi, qui ont commencé à créer du contenu. Et les entreprises ont gagné de l'argent sur ce contenu. Facebook, Instagram, Twitter, etc. Troisième vague, Web3, les gens créent du contenu. et sont rémunérés de façon juste par rapport au contenu qu'ils ont créé. Et quand je dis juste, ce n'est pas simplement une commission, par exemple, de ce que peut gagner un Instagrammeur, etc., comparé à l'argent qui est généré dans une corporation comme Facebook ou Instagram.
C'est qu'il détient vraiment, il est propriétaire de sa création.
Exactement.
Et du coup, il touche à chaque fois
une rémunération qui est faire, en tout cas. Et ça, c'est un peu le rêve de tout un chacun, c'est-à-dire qu'on produit de la data, on utilise Internet tous les jours, des entreprises de marketing ont utilisé cette data, des entreprises d'assurance, des entreprises d'investissement, etc. Et tout ça, ça génère de l'argent pour lequel on n'est jamais rémunéré. C'est profondément injuste. Maintenant, ce nouveau web et cette volonté émergente, il fallait trouver une solution en fait, pour permettre ça. Et je pense que c'est comme ça que ce système est arrivé. La solution, c'est retirer les intermédiaires. Okay. Comment retirer les intermédiaires ? La blockchain. La blockchain permet d'écrire des smart contracts qui vont te permettre du coup, de retirer des intermédiaires et créer des intermédiaires de confiance, puisque c'est du code qui est aussi open source, transparent, contrôlable, et du coup qui permet aux utilisateurs de vérifier qu'ils sont effectivement rémunérés à une juste...
Est-ce que c'est toujours pertinent de décentraliser ? Est-ce que tu penses que la plupart des organisations tech aujourd'hui peuvent être convertibles en DAO ou c'est pas toujours pertinent ?
Non, je ne pense pas que ce soit toujours pertinent. De toute façon, jamais rien n'est 100% pertinent. Je pense que dans certains cas, ça va permettre... je dirais qu'il y a pas mal de business qui peuvent être remplacés par des DAO, notamment les two-side business places. Mais je ne pense pas que ça soit une vérité pour tout le monde. Maintenant, je pense qu'on va avoir un peu des clones de toutes on va en voir beaucoup et beaucoup de business peuvent être transformés. Maintenant, est-ce que c'est la bonne solution ? Je ne sais pas. Mais ça serait intéressant de faire le test.
Pour revenir aux bases du truc, dans ce mot DAO, il y a décentralisation. Et c'est vrai que quand on en parle comme ça, il y a quelque chose de très pirate. Où en fait, on se rend un peu compte, on a l'impression que c'est des gens qui ont envie de retrouver la souveraineté de leurs données et qui se disent « Ok, on va utiliser la technologie pour un petit peu dire merde à tout le monde et récupérer ce contrôle. » Est-ce que tu peux peut-être nous expliquer un peu d'où vient ce contexte de décentralisation, à quoi ça correspond et comment ça s'inscrit aussi dans toute la technologie blockchain qu'il y a derrière
Alors, c'est une question intéressante. Je ne pense pas qu'il y ait aussi, aussi par rapport à ta question, Inès, décentralisation et centralisation peuvent coexister. Ouais. Déjà, il faut pas. Moi, je vois pas ça comme l'un ou l'autre. C'est jamais noir ou blanc. Et dans beaucoup de DAO, ça coexiste. C'est aussi ce que je sous-entendais dans la définition d'une DAO, qui est la réalité, c'est qu'en fait, il y a aussi un petit peu de centralisation qui permet de faire avancer les projets. Sinon, c'est extrêmement compliqué de faire avancer les choses si tout est décentralisé et toutes les décisions devaient être prises en groupe. Ça serait quasiment impossible d'avancer. Du coup, il y a la confiance qui est parfois donné à des core teams, à des développeurs qui vont intervenir sur ces DAO. Et le contexte dont tu parlais, d'où vient cette volonté, je connais mal l'histoire justement des cyberpunk, cette histoire-là, mais en tout cas, il y a des gens qui ne peuvent pas avoir accès à certains services. Il y a une partie de la population qui, pour certaines raisons, n'ont pas accès à certains services basiques et qui, du coup, grâce à cette décentralisation, vont pouvoir, par exemple, avoir l'équivalent d'un compte en banque ou ce genre d'application.
Comment la DAO, elle permet à tout un chacun d'avoir un compte bancaire
Alors, ce n'est pas la DAO en soi. Je pense c'est plus, tu parlais de décentralisation et de blockchain, en évitant d'avoir des intermédiaires centralisés. Parfois, ça évite du coup d'imposer à tout le monde des décisions qui ont été prises par certains partis prenantes de la situation dans laquelle on est. Ça permet de s'en échapper, de s'en libérer. Après, la DAO, c'est plus une façon de s'organiser. C'est un nouveau consensus, si vous voulez. Ça fait des milliers d'années que les humains cherchent des façons de se coordonner. On est passé par plein de phases, des démocraties, des totalitarismes. Et on a eu plein d'expériences, plein de réussites, beaucoup d'échecs aussi. La DAO, je vois ça comme un peu la dernière itération qu'on est en train de faire sur comment est-ce qu'on peut se coordonner en tant qu'être humain, s'organiser en utilisant le web Et donc, la blockchain et ses outils qui permettent, en fait, au final, c'est juste un enabler, si tu veux, d'un nouveau système de coordination.
C'est vraiment un outil, en fait.
Exactement.
Un outil d'émancipation.
Pourquoi est-ce qu'on pourrait pas aller jusqu'au bout et créer des sociétés ?
Ouais.
Quand, dans société, j'entends aussi entreprise, qui serait donc détenue par les parties prenantes, etc. C'est un nouveau mode de travail. C'est...
Un nouveau mode de redistribution de la valeur aussi ?
Exactement, exactement. Et du coup, c'est un nouveau mode de coordination, un petit peu. Et c'est super intéressant pour ça, parce que c'est un peu la dernière itération, pour moi, que les humains sont en train de faire, puisqu'on retire toutes les barrières démographiques. Donc, on se retrouve dans les DAO avec des participants de plus de 50, 60 pays, de tous les âges, de toutes les démographies.
En fait, c'est des mini-sociétés, c'est ça, à échelle humaine, en quelque sorte ? Est-ce qu'on pourrait définir ça comme ça ? En tout cas, qui se gèrent de manière automatique ?
C'est ça, automatique et non, puisque, ouais, comme je disais, il y a deux types... Il y a deux types de gouvernance. Il y a tout cet aspect automatisé, mais il faut aussi prendre des décisions qui parfois ne peuvent pas être automatisées. Imaginons que, je donnais cet exemple de la vending machine, on veut accepter un nouveau produit. Donc les utilisateurs de cette DAO, moi j'utilise cette machine, je peux écrire un nouveau bout de code, un nouveau programme pour cette machine et le proposer à la communauté. Et donc essayer de faire évoluer ce produit en mieux.
D'accord.
Et à ce moment-là, il y a des gouvernances qui peuvent être faites, être mises en place. Quand je dis des gouvernances, c'est des votes, en fait. Donc, on va utiliser le token ou la crypto de la DAO qui a été distribuée en fonction de votre... souvent, d'ailleurs, en fonction de votre engagement, ce qui met en place un peu des méritocraties. Vous allez avoir un droit de vote, vous allez pouvoir, du coup, influencer, accepter cette mise à jour,
donc,
par
concrètement,
exemple.
Concrètement, si on veut changer un élément du protocole, donc du livre blanc, du smart contract, on peut soumettre une proposition... Et le soumettre au vote, c'est ça ?
Exactement.
Qui est proportionnel au poids.
Exactement. Et il y a différents types de vote. Il va y avoir un token, un vote, par exemple, ou une personne, un vote. Ça va dépendre des systèmes et des organisations.
Mais... Ça, du coup, en fait, ça reprend ce qui existe déjà en finance, ou avec les actions de préférence, etc. Dans une boîte, par exemple.
J'irai peut-être pas jusque-là, puisque c'est une question un peu tricky. Disons que quand tu es actionnaire d'une société aujourd'hui, ok, tu vas avoir de la transparence à un certain point, hein, mais ouais, pas une transparence absolue. Et donc tu vas avoir un pouvoir décisionnaire proportionnel à tes parts. Mais ça va être compliqué pour toi, si tu veux, d'aller contre la majorité, alors que c'est tout à fait possible sur la blockchain. Un exemple concret, je vais un peu rétro-pédaler. On disait qu'il y a de la décentralisation, c'est automatisé, mais il y a des êtres humains qui font avancer les protocoles. Donc disons que moi, demain, je veux faire en sorte que cette machine fasse quelque chose. Les gens ne sont pas forcément d'accord avec moi et n'approuvent pas forcément ce choix. Et c'est d'ailleurs... Ce qui arrive souvent, vu que le code est transparent et open source, on peut forker, et donc du coup recréer le même business sans approuver du coup la décision du comité exécutif. Donc on a un petit peu cet effet, c'est vrai qu'on va retrouver un comité exécutif, donc c'est en ça que les DAO ne sont pas non plus souvent entièrement automatisés, il y a quand même une core team qui pousse le projet, mais... Si vous voulez forker Coca-Cola, je dis n'importe quoi, demain les gens pourraient, puisque la recette serait publique.
Qu'est-ce que j'entends par forquer ?
Pardon, forquer, ça veut dire reprendre le même code,
ouais,
le même projet,
ouais,
le même business par exemple, mais prendre une autre direction. Par exemple, si la recette de Coca était on-chain, ouais, peut-être qu'on pourrait utiliser cette recette et en faire une version avec peut-être moins de sucre ou peut-être meilleure pour la santé. Tu vois. Et n'importe qui aurait le droit d'utiliser ce code puisqu'il est public et open source. Du coup, on ne pourrait pas empêcher.
Pour revenir encore en arrière et rétro-pédaler, tout à l'heure, tu me parlais du fait qu'une DAO doit reposer sur de la confiance. Pour moi, la confiance de la DAO, elle repose sur la tech qu'il y a derrière et sur le fait que c'est fait sur la blockchain et que normalement, on ne peut pas modifier un vote et qu'un vote est un vote et qu'il est détenu par une personne qui a une identité numérique propre. Est-ce que la confiance, elle repose vraiment là-dessus ou alors c'est plutôt sur la team parce que tu peux forker le projet ?
Alors, je nuance encore une fois. Tout est open source, va être transparent, mais malgré tout, la DAO emploie des développeurs, il y a une core team, il y a des gens qui peuvent demain faire un choix sans consulter la communauté.
Ouais.
Souvent, c'est le cas. Et si ça se passe, il y a une breach de la confiance. Et à ce moment-là, quand la confiance est cassée, rien n'empêche, du coup, les participants de ce système de le recréer et de ne pas aller dans la direction qui vient d'être modifiée. Donc, en fait, il y a une trust, mais si demain, il y a un breach de cette trust, il y a quand même un contre-pouvoir qui va te permettre d'échapper à la direction qui est en train de prendre le projet si elle ne te plaît pas. Et d'ailleurs, ça arrivait plein de fois. Ethereum a été forqué plein de fois. Regarde, Ethereum, par exemple, c'est l'exemple parfait. C'est très, très décentralisé aujourd'hui. Il y a énormément de choses. Pourtant, il y a un leader, Vitalik Buterin, qui est l'inventeur de ce protocole, qui permet, du coup, de créer des systèmes décentralisés. C'est une blockchain. Vitalik, quand il prend une décision, malgré tout, c'est lui qui prend la décision. Si demain, il prend une mauvaise décision, n'importe qui dans la communauté, vu que le code est transparent, peut donc forquer, ne pas l'écouter et essayer d'emporter le projet vers une autre direction. Et il y a eu plein de forks, déjà dans l'histoire aussi bien de Bitcoin que d'Ethereum.
Mais Bitcoin, mais vu que la core team
est brillante, si tu veux, il y a des supers idées, tu continues de la suivre, puisque du coup, ils ont quand même pris les bonnes décisions jusqu'à présent. Et c'est ça, pour moi, le but d'une core team. Et tu as de la trust envers les personnes qui poussent le projet, mais malgré tout, tu as les outils. Et c'est en ça qu'une DAO est puissante. Du coup, ça rejoint assez l'open source. Je pense que c'est un des fondamentaux d'une DAO, c'est que le code soit open source et transparent pour que les utilisateurs puissent, en cas de breach de la confiance, continuer le projet dans la direction qui est la bonne.
Mais le projet prend un autre nom, ou pas ?
Il pourrait, oui, souvent, les forks ont un autre nom.
Quand tu fais un fork d'Ether, tu ne peux pas l'appeler Ether.
Tu peux l'appeler Ethereum 2.
Oui, mais tu ne peux pas... autrement, c'est vraiment une marque, quoi. Ce que je veux dire par là, c'est que...
Ça serait compliqué de s'y retrouver, si les deux projets avaient le même nom. Mais par exemple, Bitcoin Cash à l'époque. Puis y a eu d'autres
ça se transforme en autre projet ? Je n'ai pas trop compris, c'est le système de contre-pouvoir.
Ouais, tu vas créer, en fait, si tu veux, tu recrées le même projet, mais avec vu que le code est transparent, tu peux très bien relancer le même projet.
En gros, si je prends un exemple sur la réalité, c'est comme si, demain, on monte une boîte, tu prends une décision, ça ne me plaît pas, je remonte la même boîte à côté, avec la même techno, tout pareil, sauf qu'à un moment T, je n'ai pas pris la décision que tu as prise.
T'imagines même que tes bureaux sont duplicables et que tu pars avec les bureaux en même temps.
Exactement.
Ça, et qu'en fait, tu reprends les bureaux et que tu les remets à un autre endroit.
Exactement.
Tout pareil.
Exactement. C'est une bonne image. Puisque du coup, c'est transparent. Et du coup, tu as la possibilité de forquer toute l'infrastructure. On donnait l'exemple de Coca, c'est peut-être une bêtise. Tu peux forquer toute l'infra Coca et avoir le même business, avoir les mêmes capacités de livraison, etc. Puisque le code est transparent.
Peut-être avant de rentrer dans... Parce qu'on a lancé beaucoup de termes techniques, on va un peu après détailler tout ça. Pour comprendre encore un peu mieux les fondements de cette DAO, est-ce que tu peux nous expliquer avec l'exemple de ce que vous faites chez CrunchDAO, comment ça se passe justement en termes de gouvernance, de prise de décision, de rémunération, un peu tous les mécanismes qui peuvent rentrer derrière et voilà, je pense que peut-être, vous êtes un bon exemple pour comprendre tout ça.
Ok. Peut-être qu'il faut que je vous dise ce qu'on fait déjà à CrunchDAO. Okay. CrunchDAO, on a créé une crypto-monnaie, donc un token, qui nous permet de rémunérer des chercheurs dans le monde entier pour travailler sur de la recherche. Sur de la data, essentiellement, on fait essentiellement de la data. Donc ces chercheurs sont rémunérés avec notre crypto-monnaie pour résoudre des problèmes data-driven, donc souvent du machine learning, des statistiques et des maths.
Donc tu as un client qui arrive avec un problème. Tu la mets sur la plateforme, ça envoie une notif aux chercheurs, les chercheurs taffent sur le projet, ils proposent une solution. Si la solution elle est considérée comme bonne par ton client, ils reçoivent des tokens.
Exactement.
Et les tokens sont de votre propriété. Sont émis par vous, ce que je veux dire.
En fait, la DAO, la CrunchDAO, si tu veux, c'est comme une machine de distribution, si tu veux. D'un côté, on va avoir des clients... qui vont amener de la data. On met de la data sur la plateforme. Les chercheurs vont construire leur modèle. On va observer la qualité et la performance de leur modèle par rapport à la data live. Et plus leurs modèles sont performants, plus ils vont être hauts sur un leaderboard, donc un classement, si tu veux, des chercheurs sur ce problème pour savoir qui résout le mieux ce problème.
Par exemple, un algorithme, c'est ça, un protocole ou
Exactement.
Un type de data, ouais.
Exactement, un algorithme, en général. Et donc ce classement va servir à la rémunération donc au à la distribution de ce que le client aura payé pour accéder à cette solution, on va redistribuer cet argent via le token en fonction de la position des gens sur ce classement.
D'accord, donc les chercheurs sont récompensés et rétribués par votre token. Et comment, finalement, ils peuvent convertir votre token en vrai, en autre token Ethereum, par exemple, ou en vraie monnaie
Eh ben, c'est très simple, ils peuvent l'échanger. On a donc un smart contract aussi qui permet d'échanger et de récupérer donc de l'USDT qui est l'équivalent d'un dollar mais numérique. Et pourquoi cette solution? À l'époque, ça a commencé puisque dans les premières versions de CrunchDAO, on n'avait pas de token. On organisait des hackathons de data science. En fait, on a voulu résoudre un problème data-driven, on n'arrivait pas en interne. On s'est dit, on va organiser un hackathon, on va voir si les mecs sont bons et vont pouvoir le faire. On l'a organisé à l'école 42, d'ailleurs, à l'époque, j'étais encore à l'école 42, j'étais encore étudiant. On organise ce hackathon, 14 personnes participent, dont des personnes qui font partie de la boîte encore ou qui participent toujours dans la DAO. À l'époque, on avait mis 500 euros de gains pour le gagnant du hackathon. Donc les mecs ont fait des modèles de machine learning pour répondre à, pour résoudre ce problème qu'on avait. Et de fil en aiguille, ça a grossi. On s'est dit, OK, on va en faire un peu plus gros et on va le faire uniquement en ligne, plus en physique, quoi. Donc ça a grossi, 100, 200, 300, 1000, 2000. Aujourd'hui, il y a 3500 personnes inscrites sur la plateforme et plus de 600 doctorants. Donc on a en plus des gens très, très forts pour résoudre des problèmes. Ouais. Et c'est ça qui est absolument passionnant, du coup, dans ces organisations, c'est que du coup, on peut attirer, si les mécanismes de rétribution sont assez justes, du coup, on va attirer des gens extrêmement brillants, des gens qui comprennent cette logique de « Ok, j'ai un savoir-faire, comment est-ce que je peux récupérer le meilleur de ce que je sais faire ?»
Merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. N'oubliez pas de noter ce podcast 5 étoiles sur votre plateforme préférée, c'est le meilleur moyen de nous soutenir. Et surtout, si l'épisode vous a fait penser à quelqu'un, n'hésitez plus et partagez-le lui tout de suite. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre sujet. À très vite.